Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. La Russie travaille pour changer les règles de jeu en Syrie afin de réduire les agressions israéliennes contre les zones contrôlées par le gouvernement syrien. C'est ce qui a été confié par une source proche du ministère russe de la Défense au journal israélien Israël Hayom. Toujours en fait, selon cette source, la Russie a exprimé à maintes reprises son opposition aux agressions israéliennes contre la Syrie. C'est de ce sujet ô combien important qu'on va en fait vous parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux experts et spécialistes des questions internationales. Mais avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage, on reviendra tout de suite après.
La géniale idée d'une Syrie qui, tirant des salves croisées de roquettes, mais aussi surtout de missiles, combinée pourquoi pas à des nuées de drones contre Israël, et ce, consécutivement voire simultanément à des frappes aériennes, que l'entité sioniste a l'air de vouloir continuer à mener contre les sites militaires, voire les infrastructures syriennes, fait son chemin au sein du QG de la résistance. Ce mercredi à Damas, il en aurait même été peut-être question quand le président Assad, ayant reçu le président du Parlement iranien Ghalibov, a réitéré que l'Iran en particulier et l'axe de la résistance en général, et là, l'allusion est faite évidemment au Hezbollah, au Hasht et au Fatemiyoun entre autres. Il est hors de question qu'il quitte la Syrie avant que la libération des territoires syriens n'aura été complète. La presse n'en dit rien, mais cette assertion présidentielle mise à côté de cette autre phrase du président Assad, toujours prononcée au cours de cette rencontre selon qui l'Iran est le principal allié de la Syrie, suppose que les raids et frappes aériens israéliens se poursuivront. C'est sans doute à partir d'un tel constat que la Russie de Poutine a jeté une pavée dans la mare en cette fin de juillet en faisant échec aux trois derniers raids aériens israéliens ciblant les hauts lieux de la résistance, Alep Sud, Qusair et Damas Sud. La presse sioniste en veut à mort ces jours-ci à Poutine d'avoir envoyé au devant de la scène le général Vadim Kulit expliquer au monde entier comment ses batteries de missiles Buk M2, aidées par les Panzers S et que l'axe US-Turquie-Israël avait réussi à tourner en ridicule en octobre 2020, quand les drones Bayraktar turcs s'abattaient sur elle et les pulvérisaient dans le Haut-Karabakh, et ce, très sournoisement à la faveur des cartes satellites US, sur préfournies en coulisses à l'armée du sultan, ont ratatiné 17 des 18 missiles air-sol israéliens tirés du 18 à 21 juillet depuis la Méditerranée et d'Al-Tanf. Au train où vont les événements, les bases aériennes et les sites sensibles israéliens n'auront pas de beaux jours devant eux. L'axe Russie-Résistance, ayant décidé de ramener le niveau de conflit à une étape supérieure, à faire en sorte que la Syrie tire dûment sa vengeance. Côté DCA, ce sera la Russie. Côté missile, la Résistance. Une toute dernière information toujours rapportée par Israel Defense évoque que le QG du CENTCOM auquel appartient désormais Israël est sur le point d'être construit à Hatzor. Mais entre Hatzor et Ayn al-Assad, les missiles de la résistance ne font aucune différence.
En fait, cette information concernant cette nouvelle stratégie adoptée par la Russie pour au moins réduire les agressions israéliennes contre le territoire syrien intervient à un moment où, on vient de vous le dire tout à l'heure dans notre reportage, le président du Parlement iranien, Mohammad Barrel Ghalibaf, était en visite à Damas, où il a rencontré le président syrien Bachar al-Assad, et également le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Miqdad, et d'autres responsables de ce pays. Et à cette même occasion, les deux parties ont réitéré leur volonté de vouloir promouvoir de plus en plus leur coopération dans tous les domaines. Pour vous en parler, on va partir à de Moscou pour rejoindre un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Fabrice Beurre. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur votre plateau.
C'est un plaisir partagé. Avant de vous poser des questions, M. Beurre, permettez-moi de vous dire et de le dire également à nos chers téléspectateurs que l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Damas. Il s'agit de Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à M. Beurre.
Monsieur Beurre, comme première question, comment expliquez-vous cette information qui avait été donnée, si vous voulez, par cette source proche du ministère russe de la Défense et qui a confié au journal israélien Israël Hayom que la Russie envisagerait désormais d'œuvrer pour la réduction des agressions israéliennes contre le territoire syrien, la Russie qui s'oppose désormais, si vous voulez, à cette multiplication des agressions israéliennes contre le territoire syrien. S'agit-il d'un vrai changement de cap et de politique de Moscou sur ce sujet, M. Beurre?
Alors, je ne pense pas que c'est un changement de cap, c'est un changement de degré. La politique russe, la diplomatie russe, qu'elle soit militaire d'ailleurs également, a toujours été graduelle, laissant toujours une porte de sortie, une voie de négociation, tant bien même que celle-ci soit presque par acquis de conscience qu'elle puisse se déployer dans le cas précis, c'est-à-dire de laisser la chance à Israël de ne pas continuer dans leur politique d'agression régionale. Aujourd'hui, on rentre dans un cadre différent, puisqu'il faut élargir la loupe également, non seulement de la Syrie, mais également du Proche-Orient pour revenir à vraiment la géopolitique mondiale où la Russie accélère. Le bloc eurasiatique, le bloc eurasien accélère son déploiement au niveau mondial et il est primordial en cela qu'elle ait, entre autres, le contrôle de la Méditerranée, orientale. Et pour cela, il faut que la Syrie, effectivement, devienne un bastion. Et en cela, la Russie, aujourd'hui, démontre, on va dire, à passer un degré supérieur dans la mise en place de sa politique, à savoir qu'elle fait savoir d'une manière très claire et pratique à Israël que le jeu était terminé, qu'elle avait eu des cartes en main pour pouvoir négocier avec elle et qu'aujourd'hui, face à sa politique constante d'agression vis-à-vis de la Syrie, que le jeu était terminé. C'est comme cela qu'il faut le comprendre et c'est comme ça que la Russie le déploie. Et c'est quelque chose qui est assez logique et ça n'a pas grand-chose à voir avec le changement de l'administration israélienne, puisque la politique israélienne à l'extérieur, en règle générale, comme la politique américaine, les administrations changent, mais la politique reste. C'est simplement par rapport au calendrier du bloc eurasien dans la confrontation avec le bloc occidental qui aujourd'hui, de par ce qui se passe ici, là, dans le monde, commence, on va dire, dans cette région, puisque c'est à partir de là que commence pour la Russie en elle-même son redéploiement mondial, on va dire, et également c'est important pour elle dans sa politique régionale, entre autres l'axe Moscou-Téhéran, l'axe stratégique Moscou-Téhéran dans le cadre du bloc eurasien.
Et M. Beurre, s'agissant en fait de ce changement de degré auquel vous faites allusion pour commenter cette... si vous voulez, pas de nouvelle politique, mais quand même cette nouvelle approche, disons-le, dans la politique de syrienne de Moscou. En fait, sur ce point, la Russie semble vouloir, si vous voulez, transmettre un signal fort également à Tel Aviv sur ce point, parce que ces récentes agressions israéliennes contre le territoire syrien étaient un échec, parce que en fait, des missiles tirés par des avions israéliens avaient été en fait en majorité, en quasi-majorité, détruits, si vous voulez, par la DCA russes utilisés par l'armée syrienne.
Oui, et aujourd'hui en particulier. Ça a toujours été le cas. La Russie a fourni au fur et à mesure de la mauvaise volonté israélienne, de la main tendue russe, mais que j'indique qui a été tendue par acquis de conscience. Fait qu'ils ont, au fur et à mesure, armé en défense l'armée arabe syrienne. Et aujourd'hui, entre autres, la Russie veut définitivement faire de la Syrie un bastion infranchissable parce que la base de Tartous fait partie, dans le cadre de son déploiement international, d'un élément très important, entre autres pour le contrôle de la Méditerranée occidentale, dans le cadre de cette confrontation géopolitique mondiale. Ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai indiqué qu'il y avait tous ces éléments et qu'il fallait élargir, puisque tout est lié, et aujourd'hui, l'agenda, on va dire, s'est accéléré et s'accélère, et on le voit dans les différentes parties du monde, d'ailleurs, parce qu'on peut parler d'Haïti, on va dire, mais quel rapport avec ? Mais ça a un rapport aussi avec votre pays, l'Iran, avec les accords militaires. On parle du golfe de Guinée, on parle de ce qui se passe dans l'océan Indien. Tout cela est en relation, et Israël étant le porte-avions de l'impérialisme occidental dans la région, bien évidemment, c'est une cible qu'il faut fixer. Et pour cela, il faut évidemment, cette fois-ci, défendre sans hésitation la Syrie, et ce pourquoi aujourd'hui nous avons ce renforcement militaire régional.
On va revenir plus tard dans cette émission, M. Beur, sur cette coopération Iran, Syrie, Téhéran, Damas également, pour commenter un peu cette visite à Damas du président du Parlement iranien, M. Qalibaf. Maître Develet, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Vous venez d'entendre les explications de M. Beur. Vous êtes à Damas, vous suivez de près les évolutions en ce qui concerne cette coopération Damas-Moscou, Damas-Téhéran. Votre analyse, s'il vous plaît.
Ben écoutez, je serais un petit peu plus nuancé que M. Beur sur la situation en ce qui concerne donc la posture militaire et politique de la Russie vis-à-vis des Israéliens. J'aurais plutôt tendance à penser que les Russes ont peut-être été, alors c'est la nature de la Russie en tant que grande puissance, de jouer un jeu diplomatique élargi et de pouvoir être en mesure d'être au carrefour des conversations et des discussions qui peuvent avoir tantôt à la situation syrienne, tantôt à la situation régionale et partant de là dans un cercle concentrique beaucoup plus large. Ceci étant dit, il faudra souligner que depuis l'arrivée à Tel Aviv de l'administration de Bennett, les lignes de confliction, donc la ligne rouge téléphonique, si je puis dire, qui existait entre Moscou et Tel Aviv, a été visiblement interrompue. Donc on peut penser dans ce contexte-là que le nouveau gouvernement sioniste s'efforce de trouver, chercher ses marques, qu'elle cherche aussi à créer une espèce de d'ADN politique après 12 ans de gouvernance sous Netanyahou, et que la meilleure façon par défaut quelque part de commencer ses pas dans la région, c'est de continuer la même politique de violation de la souveraineté syrienne, et de toujours brandir, si je puis dire, l'épouvantail que Tel Aviv considère comme étant la République islamique d'Iran à ses portes. Hein. C'est un élément de langage politique, de toute façon, qui marche bien et qui permet de souder l'opinion publique derrière une administration qui, somme toute, est quand même composée de partis extrêmement disparates et dont on doute qu'il ne puisse résister longtemps à un vote de censure ou à une dissolution qui reverrait certainement les derniers jours revenir. Donc, dans un contexte comme celui-ci, la Russie, bien sûr, se doit de prendre acte du changement des règles qui gouvernaient depuis l'incident de septembre 2018, les rapports entre Tel Aviv et Moscou. Ceci étant dit, j'ai lu la presse israélienne concernant les déclarations de ce haut officiel russe, Et la presse israélienne semble refléter essentiellement une forme de, je dirais pas de moquerie, mais de dédain, comme s'ils ne prenaient pas au sérieux en fait les déclarations russes, insistant sur le point qu'ils allaient continuer leurs actes d'agression et qu'ils allaient certainement, sur un plan technique, ajuster leurs agressions en utilisant des moyens balistiques à longue portée. Donc, de toute façon, fondamentalement, on s'aperçoit qu'il y a quelque part un dialogue de sourds, que l'Israélien essaye d'abuser quelque part de cette ouverture d'esprit de Moscou, et ce faisant, en tout cas, envoie un message qui laisse entendre qu'ils sont prêts à jouer dans la surenchère, et dans la mesure où vous l'aviez souligné en ouverture, plus que jamais, réaffirmé au travers de la visite du président de l'Assemblée de la République islamique d'Iran à Damas, la résistance bien comprise est plus unie et mobilisée que jamais, et Moscou doit en prendre compte. Moscou doit comprendre qu'il doit s'appuyer sur la résistance et peut-être modérer ses attentes quant à obtenir de ses partenaires, entre guillemets, une certaine forme de modération, voire d'aspect constructif dans les discussions.
Mmh. Alors, vous voulez dire que Maître Devollet, ça s'inscrit dans le cadre, et vous avez fait allusion à cette visite à Damas et du président du Parlement iranien. Vous voulez dire que tout cela, ça s'inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par l'axe de la de résistance à plus la Russie.
Absolument. Je pense que s'il y avait encore des doutes sur le sujet, la visite de mercredi les a complètement enterrés, à savoir que la direction syrienne a réaffirmé que la résistance, l'Iran était le partenaire, il y avait une relation absolument inaliénable entre Damas et Téhéran, et que c'est sur ce postulat à la base qu'ensuite tout devra s'organiser. Donc la Russie, dans ce sens-là, doit prendre en compte la réalité et ajuster sa politique étrangère de manière à ce que cette collaboration et ce bloc eurasiatique dont M. Bord parlait puisse se déployer dans une harmonie parfaite.
Mmh. Monsieur Bord, vous aussi, s'il vous plaît, un mot sur cette visite à Damas et du président du Parlement iranien. Vous aussi, est-ce que vous estimez, tout comme M. Bahor, que désormais, en fait, l'ensemble de la résistance va, si vous voulez, riposter comme il faut aux agressions israéliennes contre la Syrie?
Entendons-nous bien. La Russie n'a aucune forme de naïveté. Elle a simplement cette volonté de toujours aller jusqu'au bout, même si elle sait qu'il n'y a pas de solution. Je parle de dialogue d'égal à égal avec Israël. Ça a toujours été sa politique. S'il reste même 0,0001% de chance, ils vont jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne prévoient pas et qu'ils ne sont pas en action face à ce bloc occidental dont fait partie évidemment Israël, surtout depuis son intégration au SAMCOM. Simplement, c'est que chacun a son rôle. La Russie en Syrie est présent pour. Rappelons quand même qu'en 2015, si la Russie ne serait pas intervenue, la situation militaire était quand même assez déséquilibrée. Elle a permis de remettre dans le bon sens l'action effectivement de la résistance. Et permis donc, entre autres, et essentiellement d'ailleurs sur le terrain, aux forces de l'axe de la résistance de rétablir en grande partie jusqu'à présent la souveraineté sur le territoire de l'État, sur le territoire de la République arabe syrienne. Maintenant, les rôles justement dans son bloc eurasiatique sont bien répartis. En Syrie, la Russie est plus dans une situation de fournir des armes pour défendre, et l'axe de la résistance est bien évidemment dans une position plus offensive. Et en cela, rappelons quand même que l'axe stratégique Moscou, Téhéran, et qui aujourd'hui, je vais revenir tout de suite à votre question, est très présent. Le fait que au dernier défilé de la flotte à Saint-Pétersbourg, il y ait un des plus hauts gradés de l'armée iranienne, et en particulier de la flotte, est un élément important, surtout, et je reviens dans le redéploiement international, dans la confrontation entre le bloc eurasiatique et le nouveau bloc de l'Est et le bloc occidental, la flotte, la mer, redevient importante. On revient toujours au conflit entre Rome et Carthage, la terre, et c'est Rome a vaincu Carthage en déployant, en annihilant les forces donc maritimes de sa rivale. C'est en cela qu'aujourd'hui, nous avons bien cette répartition des rôles en Syrie, et jamais la Russie n'a voulu déloger, entre guillemets, qui que ce soit. Mais évidemment, étant donné qu'il y a un axe de la résistance qui passe Téhéran, Damas, allant jusqu'à donc au Liban, avec bien évidemment le Hezbollah, ceci étant dit, chacun, comme je le répète, chacun a son rôle. Je rappelle que la Russie a bien compris cela lorsqu'elle est intervenue depuis 2015. Elle a bien compris qui était sur le terrain, et les rapports avec le Hezbollah, effectivement, je pense, sont plus que sérieux, et même d'ailleurs d'un point de vue officiel, il y a déjà eu des déclarations où, depuis Moscou, on disait effectivement à quel niveau d'intérêt et de respect qu'on avait vis-à-vis des combattants du Hezbollah qui avaient combattu, et je pense encore, mais moins à l'heure d'aujourd'hui, bien évidemment, en Syrie, avec les forces russes, en 2015, afin de rétablir l'équilibre face aux forces extrémistes djihadistes, et en particulier celles qui étaient bien évidemment, enfin je dirais même c'est un pléonasme, soutenu par les puissances occidentales. Donc la visite à Damas aujourd'hui ne fait que réaffirmer cet axe qui a toujours existé entre Téhéran bien évidemment et Damas. Moscou, dans le cas précis, n'est là, on va dire, qu'en soutien par rapport à sa politique régionale, par rapport à sa politique mondiale, et en particulier par rapport à son allié stratégique iranien, où dans ce cas précis en Syrie, chacun a son rôle à jouer. La Russie joue le sien, et l'axe de la résistance, en particulier soutenu par la République islamique d'Iran, le sien. Pour moi, c'est une parfaite coordination à l'heure d'aujourd'hui dans le combat au Proche-Orient et vis-à-vis de l'entité sioniste d'Israël.
Maître Develet, cette nouvelle approche adoptée par la Russie peut-elle s'interpréter également dans ce sens que les Russes se sont rendus compte que ces agressions israéliennes contre le territoire syrien constituent certainement une violation de la souveraineté d'un pays souverain, mais mettent également en péril les acquis et les intérêts de la Russie en territoire syrien.
Écoutez, je répéterai ce que disait M. Bohr en ouverture. Je ne pense pas que ce soit une nouvelle approche. C'est effectivement plus une gradation vers le haut. Les Russes sont très légalistes. Donc, de toute façon, ils privilégieront toujours le dialogue, la diplomatie et le respect du droit de manière générale dans leur interaction avec les pays du monde de manière générale. Maintenant, effectivement, ils s'aperçoivent que cette approche commence à montrer ses limites et sont dans une position de facto où ils doivent maintenant commencer à peut-être réaligner, recalibrer leur perception de leur interaction avec les Israéliens, qui pour l'instant, il faut quand même le dire, semblent par leurs actions souligner un refus de prendre en compte la situation et d'ajuster leur politique. Donc personne ne veut jouer l'escalade, hein, ce n'est pas dans l'intérêt de quiconque, mais toujours est-il que nous sommes en présence visiblement d'une situation où certainement pour les Russes, recalibrer peut-être un tant soit peu à la hausse leur interaction, leur relation bilatérale avec les Israéliens, et leur faire comprendre qu'ils sont bien disposés à prendre les mesures adéquates pour leurs intérêts à eux aussi, qui sont importants en Syrie.
Maître Arnaud Develet, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Beur, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.